veston pour l'évangélisation. Vous allez peut-être mieux comprendre au fur et à mesure où on va avancer dans ce message. Mais je veux d'abord féliciter tous ceux qui se sont impliqués concernant cette construction qui avance bien selon les photos que je viens de voir. Je suis content, ça me réjouit. C'est un vent nouveau qui souffle sur votre assemblée. Et je sais que ça va apporter ce vent nouveau-là de satisfaction d'avoir pu reconstruire ce qui était tombé et de pouvoir aussi un vent d'unité aussi qui va travailler avec vous. Et je me réjouis de ce que je vois ici avec votre assemblée. Ce matin, on va parler d'évangélisation, on va parler de sanctification. Et je voudrais qu'on puisse partir comme il faut, comme on parlait tout à l'heure, moi et Pierrette, et on parlait de notre position en Christ, et que trop souvent, on est interpellé dans nos églises à aller de l'avant, puis à faire les choses et tout ça, et on oublie qu'on a besoin de se rappeler que l'amour du Seigneur est vraiment inconditionnel. On est des enfants de Dieu, on appartient à Dieu, et quels que soient nos mouvements, quelles que soient les choses qu'on va faire après être entré dans la maison, l'amour de Dieu va toujours rester inconditionnel. Et si on a tellement de choses qui nous sont rapportées dans les Écritures à faire ou à aller de l'avant et à travailler pour l'œuvre de Dieu, et c'est pas dans le but de changer cet amour inconditionnel de Dieu-là, mais justement parce qu'on a découvert qu'on a un amour inconditionnel, on a ce désir en nous de vouloir maintenant plaire au Seigneur. Et je sais que c'est le but de chacun d'entre nous. Mais il y a plusieurs pièges qui sont là devant nous et qui nous aident pas. On a de la difficulté à discerner ce qu'on doit faire, de quelle façon on doit le faire. Et c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu pour nous indiquer quel chemin on doit prendre. On a le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies maintenant pour nous montrer où on doit aller. On avait une porte pour entrer et maintenant on a une lumière où marcher. Et merci Seigneur de ce que ça c'est disponible pour nous. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la famille de Dieu puis qu'on est dans un amour inconditionnel de Dieu que tous nos gestes vont faire qu'on va être inconditionnellement aimé dans nos gestes de la part de Dieu. Parce qu'on peut plaire à Dieu et on peut déplaire à Dieu. Alors, c'est pourquoi, puis c'est pas notre but, on veut pas déplaire à Dieu, alors on veut chercher comment, Dieu, est-ce que je peux te plaire et comment maintenant, et de quoi je dois me garder et si je veux pas te déplaire. Un bâtiment neuf, oui, un vent nouveau neuf, mais aussi un habit neuf, un vêtement neuf. Mon but ce matin, je veux faire le lien entre l'évangélisation et la sanctification. Parce que la Bible fait un lien entre les deux et c'est ce qu'on va regarder. Et la deuxième chose que je voudrais faire, c'est d'essayer de mieux comprendre le processus de la sanctification. Parce que si ça a un lien dans notre évangélisation important, alors c'est bien de savoir de quelle façon je vais arriver à progresser dans ma sanctification de la bonne façon et le plus rapidement possible. C'est ça mon but ce matin. Donc, on va lire le verset ici dans Éphésiens 4, 17 à 24. Je vais me tourner ici, je pensais que j'avais un écran. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle, les vaines des sans-dieux qui vivent en aveugle dans ce monde d'illusions en suivant leurs propres pensées vides de sens. Ils ne connaissent rien de mieux. C'est important ici. C'est pour ça qu'ils marchent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la lumière que nous avons. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement est obscurci. Ça les fait errer. Leur ignorance volontaire, l'endurcissement de leur cœur ont omnibulé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur, tout sens moral, au point de se jeter avec frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi, ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Pour vous, vous êtes entrés à l'école de Christ. c'est le privilège qu'on a sur l'incroyant. Eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent rien mieux. Nous, on a une école. On est rentré à l'école de Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris qu'il est à travers l'enseignement que vous avez reçu. C'est lui qui vous a instruit. Donc, on a quelqu'un qui nous instruit, nous. Vous avez reçu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez à quitter les vieilles hardes de votre ancienne vie, manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant, votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Ou on pourrait dire, il faut que la source de votre inspiration soit renouvelée. Avant, on avait quelqu'un qui nous inspirait. Maintenant, on a un nouveau professeur qui nous inspire. Que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Habillez-vous de neuf. Mettez les vêtements propres à la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Ici, il nous parle d'un vêtement neuf. Un vêtement, et si on lit bien le texte, ça ne dit pas que Dieu va nous déshabiller du vieux vêtement, mais ça dit qu'on doit se déshabiller du vieux vêtement. Et ça ne dit pas non plus que Dieu va nous habiller du nouveau vêtement, mais il nous dit « habillez-vous d'un nouveau vêtement ». Alors, on va traiter de ce sujet-là concernant le rôle de Dieu dans ma sanctification et mon rôle à moi. Négliger la sanctification, c'est lié avec l'évangélisation, parce que si on néglige la sanctification, on arrive au contraire du bon témoignage ou d'un témoignage puissant. Israël avait cette responsabilité d'un témoignage à travers sur la terre pour Dieu. Et voici ce que le Seigneur va lui dire, ou ce que l'apôtre Paul dit ici dans Romains 2. « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Donc, c'est loin d'être le but de l'Église que le nom de Dieu soit blasphémé par ce manque de sanctification qui pourrait être là dans l'Église, comme ça l'était le cas pour Israël, qui n'a pas rempli son rôle en suivant les lois d'Israël. Donc, le nom de Dieu peut, nous qui voulons élever le nom de Dieu, négliger la sanctification ferait le contraire du témoignage puissant qu'on peut rendre. C'est pour ça qu'il y a un lien. On est comme dans un aquarium. Les gens nous regardent vivre. Et ce qu'ils voient chez nous aura un résultat sur la position qu'ils vont prendre lorsque l'Évangile va leur être présenté. Et c'est là dans les Écritures. Et je ne suis pas certain qu'on saisisse bien notre rôle dans la sanctification, et c'est ce qu'on va aussi regarder. Ça, c'est un texte dans Jacques. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant à vous-même par de faux raisonnements. » Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ici, dans ce texte, on voit que la parole est le privilège qui nous est donné. On a vu tantôt dans l'autre texte qu'eux, ils n'ont pas cette révélation-là. Ils n'ont pas la parole. Ils ne savent pas. Ils sont aveuglés. Nous, on a un professeur qui nous enseigne. On a la parole de Dieu. On a le Saint-Esprit en nous. Et là, ici, il nous dit qu'on doit recevoir avec douceur cette parole. C'est comme si, lorsqu'on demande à notre enfant, « Voudrais-tu aller là ou voudrais-tu faire ceci pour papa ou pour maman? » Et qu'il irait, mais bien fâché, ça ne tente pas d'y aller, puis il y va. Mais celui qui le reçoit avec douceur, c'est comme ça que Dieu veut qu'on la reçoive. On entend la parole, le Seigneur nous donne une direction, et on veut le recevoir avec douceur, parce qu'on sait que non seulement ça va glorifier lui, mais ça va être bon aussi pour moi. Donc, il regarde dans un miroir, il voit ce qu'il voit, et il se met à l'œuvre. Et on a de la difficulté un petit peu avec ça, à dire, bien, c'est Dieu qu'il faut qu'il se mette à l'œuvre, puis c'est lui qui va faire le travail, puis il faut que je me repose sur lui, puis c'est lui qui va tout faire le travail. Eh bien, si on voit ça comme ça, mais on ne se mettra pas à l'œuvre. On va attendre que Dieu fasse l'œuvre, et là, l'œuvre va se faire. On espère que l'œuvre va se faire. Mais ce n'est pas ça que Jacques semble dire ici. Il dit, tu vois, la grâce t'a été donnée d'avoir la parole, le Saint-Esprit est en toi, il te révèle des choses, il te montre la voie que tu dois suivre. Maintenant, reçois-le avec douceur. Ne te rebelle pas contre ça. Accepte-le, résiste pas au Saint-Esprit, accepte la voie qu'il te montre et marche dedans de progrès en progrès. Dans 2 Pierre, je ne l'avais pas marqué le verset, mais c'est le même thème qu'on dit aussi dans Pierre. Lorsque Pierre nous dit que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété, après avoir tout dit ça, on a tout ce qu'il faut. Le Seigneur a donné des outils, il a donné l'Église, il a donné la parole, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ensuite, il dit, faites tous vos efforts. Ça aussi, ce n'est pas tellement populaire, on devrait dire, bien, si on est la chair, nous, puis si on est juste la chair, bien, on ne peut pas rien faire. Donc, on va laisser Dieu faire, et là, ça va. On espère que ça, qu'il va faire son travail. Mais Dieu fait toujours son travail. S'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas son travail. C'est plutôt parce qu'on saisit mal la façon dont on doit voir la sanctification. La sanctification est liée avec l'évangélisation. Premièrement, pour les responsables d'Église, il faut aussi, les anciens, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. On sait qu'il y a quelques années, il y a eu des scandales aux États-Unis. Comment pensez-vous que le témoignage de l'Évangile, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde, a été affecté par les scandales de Swigard ou de Baker à l'époque? Je me rappelle le tort que ça a pu faire à l'Église, parce que c'était des gens qui étaient connus mondialement. Et leur façon de se conduire a complètement annulé, je dirais peut-être, ou a atteint des millions d'heures d'évangélisation, probablement. Des gens qui ont se sont détournés, voyant que, c'est eux autres, ça, qui prêchent l'Évangile, qui prêchent Jésus-Christ, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, etc.? Et ça l'a fait le contraire de vouloir être un bon témoignage. Et c'est pour ça que c'est important que les responsables d'Église aient ce bon témoignage. Et ceux qui ont cru au témoignage de Paul, ils n'ont pas cru juste à cause du message, ils n'ont pas cru juste à cause des miracles, ils ont cru aussi à cause de la conduite de Paul et de ceux qui travaillaient avec lui. Vous êtes témoins, et Dieu est aussi que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable. Et c'est cela qui venait appuyer le témoignage, avec les autres choses, avec la parole, avec les miracles même. Mais la conduite sainte, juste et irréprochable est venue appuyer ce témoignage. Donc, on voit qu'il y a un lien entre la sanctification et l'évangélisation. Pierre aussi faisait un lien entre les deux. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Encore ici, on lit la conduite à l'évangélisation, parce que la conduite des croyants va faire qu'un jour Dieu va les visiter. Et parce qu'ils auront vu parmi le monde chrétien, ça va venir consolider le message. Ça a un effet, l'évangélisation avec la conduite et la sanctification des croyants. Jésus aussi a certainement lié l'évangélisation à la sanctification. Ainsi, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on sait bien qu'au début des Actes des apôtres, la méthode de l'amour qui était là dans le peuple de Dieu a très bien fonctionné pour conduire les âmes au Seigneur. Dans les Actes, on lit « Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient leurs produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. » Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Parce qu'ils voyaient qu'est-ce qui se passe avec ce monde-là. Il y a un amour tel dans cette église-là. Ils s'occupent des gens plus pauvres. Il n'y a pas personne qui est mis de côté. Et tout le monde avait le goût d'entrer dans l'église par le témoignage qu'ils rendaient comme étant devenus des disciples de Christ qui avaient décidé de vivre pour leur Seigneur et à l'image de leur Seigneur, de se donner pour les autres qui étaient avec eux. Que votre lumière luise dans les ténèbres, ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père et qui est dans les cieux. Donc, encore ici, le Seigneur Jésus lui-même va lier la sanctification avec l'évangélisation. Témoigner. Trevor est venu, je pense, à notre assemblée il n'y a pas longtemps. Il y a un groupe de Guatémaltais, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais du Guatemala, qui travaille ici, là, dans les serres automates et tout ça, là, à Saint-Étienne, Saint-Boniface, ou je ne sais pas quoi. Puis nous, un de nos anciens, il les conduit en autobus de temps en temps. Il s'est dit, ça serait le fun peut-être de les inviter. Puis de leur montrer qu'on a un accueil chaleureux à notre église. On pourrait les inviter à souper à notre église un soir. Ils disent, vont-tu venir? Ils sont une quarantaine. Ils disent, regarde, on va lancer l'invitation, puis on prendra ceux qui viendront. Puis on va aller chercher en autobus. Puis on a fait ça. Il y en a 7 qui ont embarqué dans l'autobus. Puis on les a ramenés à l'église, puis il y avait toute une foule là, qui les attendait. On est allé chercher dehors, il pleuvait un petit peu avec les parapluies en sortant de l'autobus, puis on les a rentrés à l'intérieur. Ces gens-là étaient tous surpris. Pourquoi ils font ça? Ils ne nous connaissent pas et ils nous invitent comme ça chez eux. Mais ce qu'on leur a dit, c'est juste Jésus. On veut juste vous dire que Jésus nous a aimés et qu'il vous aime. C'est juste ça. Et le témoignage, c'était vraiment bien. On ne savait pas à quoi s'attendre. On avait peur d'avoir l'air fou. On ne savait pas quoi faire. Mais ça a fonctionné et on s'est vraiment réjoui de ce temps avec eux autres. Excusez. Témoigner par une sanctification qui change nos priorités. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Les commandements que je te donne aujourd'hui vont être dans ton cœur. La parole de Dieu chez les croyants doit avoir une place tout à fait spéciale. Si les gens ne voient pas cette priorité qu'on a pour la parole de Dieu, eh bien, c'est pas ça qui va les approcher. Je me rappelle à l'usine, parce que de nuit, j'emmenais mon lunch. On avait une cafétéria, mais de nuit, il n'avait pas, fait que j'étais obligé d'emmener mon lunch. Et sur ma boîte à lunch, j'avais écrit « L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et un moment donné, Michel Pagé, qui n'était pas chrétien, qui travaillait à l'usine aussi avec nous autres, il a passé devant ma boîte à linge, il a vu ça. L'homme ne vivra pas de pain. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il marque ça sur sa boîte à linge. Ça doit être important pour lui, pour qu'il puisse aller écrire ça sur sa boîte à linge. Ça vient de où, ça, cette affaire-là? Et suite à ça, il s'est mis à poser des questions et finalement, il s'est retrouvé chez nous. Puis il est sorti, il est arrivé chez nous, il était à 6 heures le soir, je pense qu'il est parti de chez nous à 4 heures du matin. Il avait accepté le Seigneur et c'était toute une joie. Mais l'importance que, lui, ce qu'il a touché, comment la parole de Dieu peut être aussi importante pour quelqu'un, une Bible, un verset de Bible qui marque ça sur sa boîte à lunch, et pour lui, c'était un témoignage. Le Seigneur veut qu'on fasse ça. Il veut qu'on le fasse aussi avec nos enfants. Hein? Tu l'inculqueras à tes enfants. Les enfants, nos enfants, c'est les premières personnes à qui on peut témoigner et on peut leur faire connaître l'amour de Dieu. Et on voit dans Deutéronome comment c'est important que le père et la mère puissent communiquer cet amour de la parole. Il y en avait partout dans la maison. Tu les mettras comme un signe, les frontaux sur tes portes, tu écriras ça partout. L'importance, c'est pas ça, c'est pas officiel qu'ils vont venir au Seigneur parce qu'on met un verset de Bible sur le mur chez nous, mais nos enfants devraient nous voir apprécier la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu, et le jour où le Seigneur les visitera, ça aura un impact sur leurs décisions. Et il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, apprendre à être content. La sanctification, c'est quelqu'un qui a appris un moment à être content de l'état dans lequel je me trouve. on devrait être capable, comme chrétiens, de cesser de se plaindre et que les gens qui sont autour de nous devraient être capables d'avoir des chrétiens qui sont enthousiastes, qui ne sont pas toujours en train d'être grincheux et de se plaindre. Et on devrait être capable, comme croyants, d'être plus sereins dans notre façon d'être devant les gens. Et souvent, les gens vont dire, « Je ne sais pas ce qu'il y a, lui. Il y a de quoi que je n'ai pas. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle. Elle a de quoi que... » C'est quoi ça? C'est cette sérénité qu'on apprend en maturant dans le Seigneur, cette sérénité qu'on apprend de plus en plus à laisser les inquiétudes de côté, à se confier au Seigneur, à accepter l'état dans lequel on se trouve. Comment est-ce qu'on voit des gens chrétiens qui passent par des maladies, des fois graves, à l'hôpital, être capables de... Ils se disent, l'autre, il a la même maladie que lui parce qu'il va voir le même docteur, puis ils sont assis à côté, l'autre, il shake de même, il a peur, puis il est tout angoissé. Puis oui, on a nos angoisses, oui, on a nos choses aussi, mais jamais au désespoir, comme l'apôtre Paul disait. Et ça paraît dans nos vies. Et ça témoigne. La sanctification. Si c'est si important pour l'évangélisation, eh bien, comment ça fonctionne vraiment? Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais quand même plusieurs années été faite dans le Seigneur, mais j'avais la difficulté à comprendre vraiment notre rôle dans la sanctification et le rôle que Dieu doit jouer. Parce qu'on a des impératifs dans les Écritures qui nous disent « Faites ceci, ne faites pas cela et tout ça. » Et on nous dit « Sans lui, nous ne pouvons pas rien faire, et etc. » Donc, c'est quoi que je dois faire, etc. Et c'est pas nécessairement toujours évident. Et je pense qu'on comprend pas nécessairement ça comme faux. Certains croient que nous sommes totalement passifs dans notre sanctification. Sans lui, on peut rien faire, Dieu fait tout. Donc, on est passif, Dieu va faire le travail. Et c'est pas tout à fait comme ça que la sanctification se fait. C'est vrai que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dans quel sens? Dans le sens que sans l'Esprit de Dieu, personne ne saurait comment s'habiller. On parle d'un veston pour l'évangélisation. On a vu tout à l'heure de se dépouiller du vieux vêtement qu'on avait, puis de prendre un nouveau vêtement. Dans quel sens je ne peux rien faire? C'est que, premièrement, je ne vois pas comment je suis habillé. J'ai besoin d'un miroir, et c'est ce que Jacques nous disait tout à l'heure. Tu regardes dans le miroir et tu vois ce que tu es. Parce que j'ai pu voir ce que j'étais, maintenant, je peux décider de l'enlever. Je peux le garder aussi. Je suis libre de le garder. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans notre sanctification, c'est qu'on est libre de garder ce que Dieu nous montre ou de l'enlever. Et lorsqu'il nous dit, ça c'est un vêtement qui ne te va pas comme chrétien, alors dépouille-toi de ça. Et voici le vêtement maintenant qui convient à un enfant de Dieu. Et je l'ai appris par les Écritures, je l'ai appris par un message que j'ai entendu à l'Église, je l'ai appris par un frère qui est venu m'en parler, je l'ai appris par le Saint-Esprit qui m'habite et qui veut me faire progresser dans ma vie spirituelle. Et lorsque, dans sa grâce, Dieu fait ça, et si la grâce de Dieu n'est pas là pour faire ça, je ne peux rien faire. Je ne sais pas comment m'habiller et je ne sais pas comment me déshabiller non plus. Mais ce n'est pas Dieu qui va me déshabiller et qui va me rhabiller. Il va me conduire dans cette œuvre de sanctification. Et c'est là la grâce de Dieu qui nous est offerte. Son rôle, c'est fournir le miroir. Que les païens n'ont pas. On a un miroir, nous, qui nous dit, hey, regarde comment tu es habillé. Son rôle, c'est de fournir le miroir et c'est de nous fournir la garde-robe aussi. Parce que les vêtements, ils nous montrent quel vêtement porter. Mais ce n'est pas parce que la garde-robe est là que j'ai le vêtement sur le dos. Je dois choisir le garde-robe où je vais m'habiller. Je peux m'habiller là, je peux m'habiller là. Mais je suis entre les deux. Et on a de la difficulté à voir, à comprendre qu'on est entre les deux. On croit qu'on est ici, qu'on est la chair et qu'on ne peut rien faire parce qu'on est chair. Donc, on peut absolument pas bouger. Mais non, on n'est pas là. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Son rôle n'est pas de nous habiller, mais de nous enseigner et de nous montrer comment s'habiller et comment se déshabiller. Et il va le faire à travers tous les outils Le Saint-Esprit va agir en nous en nous enseignant avec tous les outils dont il dispose. La parole de Dieu, l'Église, les frères, le monde même autour de nous. Dieu peut se servir de tout ça pour nous enseigner de quelle façon on doit se vêtir. Mais son rôle n'est pas de nous habiller, mais de nous enseigner. Enlève ceci et voici, porte cela. Des expressions qu'on entend, que j'entends depuis qu'on est chrétien, marcher par l'esprit. Oh, c'est quoi ça, marcher par l'esprit? Ou plutôt, faites mourir par l'esprit. Si donc, marchez par l'esprit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, et ce n'est pas marqué, si le Saint-Esprit marche pour vous, vous allez accomplir les œuvres de Dieu. C'est marqué, marchez, vous, par le Saint-Esprit, parce que si c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous montre quel chemin prendre, si c'est lui qui vous montre quel vêtement porter, quel vêtement enlever, alors vous aurez des fruits. Là, vous aurez vraiment des fruits. Donc, marcher par le Saint-Esprit, ça consiste à être conduit par le Saint-Esprit. Et on a aussi la même chose dans, je n'ai pas marqué le verset, mais je vous le lis tout simplement. Est-ce que j'ai marqué ça? Faire mourir par le Saint-Esprit, Romains 8, 13. Si vous faites mourir par le Saint-Esprit. C'est quoi ça, faire mourir par le Saint-Esprit les actions de la chair? Je pourrais dire, je me mets à genoux parce que là, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés avec certaines mauvaises habitudes dans ma vie. Donc, je vais faire mourir les actions de la chair en faisant que Dieu va faire lui-même mourir ces choses-là. Non. Faire mourir, encore une fois, dans le texte, ça dit que si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, c'est encore une question de conduite. Le Saint-Esprit nous conduit et c'est ainsi qu'on peut trouver qu'est-ce qui doit mourir et qu'est-ce qui doit, quel vêtement je dois porter et quel vêtement je ne dois pas porter. Donc, faire mourir par le Saint-Esprit, c'est qui m'inspire pour ma garde-robe? C'est qui me dit quel vêtement porter? Je choisis celui que je veux prendre comme conseiller. On avait un ennemi avant qui nous disait comment s'habiller. Et malheureusement, on n'avait que lui. On avait la chair qui nous dirigeait, qui nous montrait les chemins qu'on devait prendre. Et c'est pourquoi on portait les fruits qu'on portait. Parce que c'est juste lui qui nous disait, regarde, mets ça, c'est beau. Va-t'en dans l'orgueil, va-t'en dans ci, va-t'en dans ça. C'est beau, c'est de même que tu vas gagner, c'est de même que tu vas avoir de la notoriété, c'est de même. C'est beau. Alors on marchait selon ça et on se lançait dans ça parce qu'on n'avait pas d'autres conseillers. Ça, c'était le vieil homme avec son conseiller. Mais le nouvel homme, lui, a un autre conseiller. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et maintenant, il va me diriger, il va me montrer ce que je dois faire. Habillez-vous de neuf. À qui ça s'adresse? Est-ce que si je suis la chair, ça c'est avant ma vieille nature, j'étais comme ça. Alors, est-ce que le verset dit... Toi, la vieille nature, habille-toi de neuf. Non, la vieille nature ne s'habillera jamais de neuf. Elle ne veut pas s'habiller de neuf, elle n'aime pas le neuf et elle veut rester dans ses vêtements. Donc, tu ne peux pas t'adresser à la chair en disant « habille-toi de neuf ». Et cette chair-là, Romains 7 nous dit que c'est le péché qui est en moi. Il y a une distinction importante à faire ici. Et cette chair-là, il l'appelle aussi ce corps de mort qui est attaché après moi. Il y a une distinction entre moi et la chair qui est très importante à faire si on veut bien comprendre ou saisir la sanctification. La chair, c'est un corps de mort que j'ai attaché après moi. Et c'est le péché qui est en moi. Donc, je ne peux pas m'adresser à cette chair-là, ce péché-là ou ce corps de mort, puis dire à ce corps de mort, « Habille-toi de neuf. » Non, il ne peut pas. Il ne veut pas s'habiller de neuf, il ne le fera pas. J'ai un nouvel homme aussi qui est en moi parce que quand je suis venu au Seigneur, le Saint-Esprit est venu m'habiter. Et maintenant, lui, c'est le contraire de l'autre. Ce n'est pas le péché en moi, c'est la sainteté en moi. Il y a quelque chose maintenant en moi qui ne désire que la sainteté. Parce que le Saint-Esprit m'habite. Et lui, il m'encourage et il me pousse vers la sainteté. Il voudrait que j'avance de progrès en progrès vers la sainteté. Ça, c'est en moi. Ce n'était pas là avant. J'avais juste l'autre, donc je marchais selon l'autre. Mais là, ça, c'est à côté. La sainteté en moi. Donc, c'est comme un professeur qui est en moi, deux professeurs. Un qui dit « marche selon moi », selon la chair, le vieil homme attaché après moi, ou « marche selon l'autre ». Les deux nous proposent leur habit. Mais nous, là, on n'est ni la chair, puis on n'est ni l'esprit. On est habité par les deux. On a la chair en nous, puis on a l'esprit en nous. On est comme ça, entre les deux. L'homme n'est pas la chair, mais la chair est dans l'homme. Ce n'est pas moi, mais le péché en moi. C'est un corps de mort qui est sur moi. Nous ne sommes pas non plus l'esprit, mais l'esprit est en nous. Et on peut résister à l'esprit qui est en nous, puis on peut accepter encore ce que la chair me propose, et on peut faire le contraire. Refuser ce que la chair me propose et accepter ce que l'esprit me propose et recevoir avec douceur cette parole qui a été plantée en moi. Le Saint-Esprit ne marche pas à ma place. Le Saint-Esprit, dans sa grâce, sans lui, je ne peux rien faire. J'ai absolument besoin du Saint-Esprit pour savoir comment m'habiller. Et j'ai absolument besoin du Saint-Esprit pour savoir comment, quel vêtement enlever. Dans ce sens-là, oui, c'est vrai, sans lui, je ne peux rien faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire, ça. Ça veut juste dire que sans son conseil, je ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais aller chercher son conseil. C'est ce que vous faites ce matin. Vous êtes venu à l'Église pour aller recevoir le conseil de Dieu. Pour, après avoir reçu la parole, pas juste l'entendre, mais la recevoir avec douceur. Parce que vous connaissez l'amour de celui qui vous parle. Et vous connaissez que vous avez à cœur que votre témoignage dans l'évangélisation soit puissant. Et vous savez que c'est lié avec vos progrès spirituels. Alors vous allez écouter. Et pas seulement écouter, mais vous allez vous mettre à l'œuvre. Et vous allez faire les efforts. Et c'est ce que la Bible demande, de se mettre à l'œuvre. Ce n'est pas une question d'être plus aimé comme enfant de Dieu ou pas aimé. On est aimé de Dieu inconditionnellement. Mais comme j'ai élevé 5 enfants, même si je les aimais inconditionnellement toutes les 5, quand il y en a un qui cassait la vitre à la maison, je ne pouvais pas dire « j'aime ce que tu fais ». J'étais obligé de dire « j'aime pas ce que tu fais ». Et même à la rigueur, j'étais obligé de dire « je vais être obligé de te mettre dans ta chambre ». Et lorsqu'il faisait des gestes qui n'étaient pas convenables, ça n'a aucun rapport avec l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu reste là quand même. Il m'aime, c'est pour ça qu'il me reprend. C'est pour ça, et c'est ce qu'on trouve aussi dans les Écritures. Le but, dans ma sanctification, c'est de m'exposer. On avait la porte. Dépasser la porte, on a maintenant la lumière. Mais on n'est pas dans la lumière automatiquement. On doit choisir de marcher dedans. Parce qu'on est libre. On est entre les deux. La chair, elle ne peut que nous proposer. Et le Saint-Esprit aussi, il nous propose. Nous sommes entre les deux et nous choisissons, parce que nous sommes libres. Parce que Dieu nous a donné cette dignité d'être des gens libres. Même après notre conversion, on est libre. Mais on a la grâce et l'amour de Dieu qui veut nous conduire à devenir des chrétiens meilleurs, à devenir des chrétiens qui vont progresser, mais qui comprennent que ça ne se fera pas juste parce que j'ai dit « Seigneur, fais de moi une meilleure personne ». Oui, il va le faire. Oui, on peut demander au Seigneur de nous faire progresser dans nos voies. Il va le faire, mais il va nous parler. Il va nous montrer. Et maintenant, on devra recevoir avec douceur cette parole et marcher dans cette voie à laquelle il nous appelle. Le Saint-Esprit ne sera jamais responsable de notre manque de progression spirituelle. On ne sera jamais parfait spirituellement. Ça, on le sait tous. Mais on doit progresser. Et le manque de progression, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est responsable de ça. C'est notre résistance au Saint-Esprit qui va faire qu'on va avoir des difficultés à avancer. Mais si je comprends bien que je dois recevoir cette parole-là, puis qu'à un moment donné, la balle est dans mon camp, ça va être plus facile pour moi de me mettre à l'œuvre, de dire, OK, moi, là, j'ai une mauvaise habitude dans ma vie, là, puis là, je vais arrêter de dire au Seigneur, enlève-moi ça, puis enlève-moi ça, puis je vais me mettre à l'œuvre. Puis là, il y en a un qui va dire, ah, fais pas ça, tu vas faire ça par la chair. Non, non, je fais pas ça par la chair. Le Saint-Esprit, c'est lui qui me montre d'aller dans cette direction-là, et j'accepte, je le reçois, et je veux aller dans cette direction-là. Mon attitude colérique, je vais travailler là-dessus et je vais mettre ça de côté parce que ce n'est pas le vêtement d'un chrétien. Et ainsi de suite. Tous les autres péchés que le Seigneur voudrait qu'on enlève qui venaient de la chair. La cause de notre manque de progression, ça va être la résistance au miroir. Voici comment tu es habillé. Oh, c'est pas si laid que ça. Non, non, enlève ça. Voici comment tu devrais t'habiller. Puis on résiste. Par amour, le Saint-Esprit ne cessera jamais de me montrer la voie et on devra choisir. Je crois que c'est comme ça que fonctionne la sanctification. Et si un jour on passe devant vous puis on vous dit spirituellement, c'est beau ce que tu portes, on pourrait lui dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parce que s'il ne m'avait pas montré comment m'habiller, tu ne créerais pas ça ce que j'avais sur le dos. Par la grâce de Dieu, je suis revêtu comme ça. Parce que c'est tout lui qui m'a montré. Moi, là, je m'ai montré ma vraie photo, comment je m'habillais avant ses conseils. Merci, Seigneur, de faire ça. Je termine ici. La sanctification, un veston pour l'évangélisation. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne d'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve peu en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur nous aide à mieux saisir comment on veut avancer, parce que je sais que c'est votre désir. Et si je vous ai dit ça ce matin, c'est pas parce que je trouvais que vous étiez un mauvais témoignage à travers le monde qui est autour, c'est parce que je sais que vous voulez être ce témoignage autour de vous. Je sais que vous aimez le Seigneur. Je sais que vous voulez grandir dans votre foi. Je sais que vous voulez être le serviteur le plus utile possible au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur nous aide par ses paroles à mieux comprendre de quelle façon il va nous permettre d'y arriver. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer pour ta parole. Quelle sagesse, Seigneur, quelle grâce que tu nous donnes d'avoir accès à cette vérité éternel et spirituel. Aide-nous, Seigneur, de pouvoir la mettre en pratique, de pas juste la regarder, parce que on veut bien comprendre, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous aimes sans condition et tu veux nous voir grandir. Alors, on veut regarder ce qui est notre part dans cette progression et merci d'être là jour par jour pour nous montrer la voie, pour ouvrir les lumières et donne-nous de faire les bons choix par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.